Alors vous l'avez entendu dans la deuxième lecture, la première communauté chrétienne attendait la venue glorieuse de Jésus pour, dans très peu de temps, peut-être la semaine prochaine, peut-être à la rigueur les 6 mois prochains. Vous avez entendu que saint Paul pensait bien être encore vivant au moment où il écrit cette première lettre aux Thessaloniciens. Saint Paul pensait bien être encore vivant sur la terre quand le Christ viendrait dans la gloire. Et voilà que le temps a passé et cette attente a peut-être quasiment disparu de notre conscience. On pourrait s'amuser à vous poser la question, qui d'entre nous s'est levé ce matin en se disant « c'est peut-être aujourd'hui que le Christ vient dans la gloire ». Qui s'est levé ce matin en s'exclamant peut-être « viens Seigneur Jésus, hâte-toi ». On pourrait s'amuser, lever la main, ceux qui se disent « Seigneur, allez, il faut y aller ». Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais en tout cas, posez-vous cette question, ou peut-être à quel moment remonte la dernière fois que vous vous êtes dit « Seigneur, c'est peut-être aujourd'hui que tu viens » ou « viens Seigneur ». Parce que à chaque Eucharistie, nous le disons après la consécration, nous attendons ta venue dans la gloire, ou bien « viens Seigneur Jésus ». Est-ce que notre parole est une parole vide, ou est-ce que c'est une parole qui a du sens? Il est possible que ce soit une parole qui se soit vidée de son sens ou de sa conscience pour nous, mais pourtant, elle nous est donnée. Et là, à chaque Eucharistie, en fait, nous hâtons la venue de Jésus dans la gloire. Alors, il est peut-être vraisemblable que le temps qui a passé a assoupi notre vigilance. Le temps qui a passé a assoupi notre conscience de la venue de Jésus. Elle s'est estompée. Alors, cet évangile des jeunes filles, des 10 vierges sages ou des 10 vierges folles, comme on les appelait autrefois, les jeunes filles prévoyantes ou jeunes filles insouciantes, est providentiel pour nous. Pourquoi ? Parce que ça vient rappeler à notre attention qu'il y a un événement qu'il ne faudra pas rater. La venue glorieuse du Messie. Vous voyez, quand on nous dit c'est les 10 jeunes filles qui attendent la venue de l'époux, cette venue de l'époux dans la nuit, elle représente, elle symbolise la venue du Messie dans la gloire. Et on nous manifeste, vous voyez à la fin de la parabole, il y a un moment où la porte est fermée et elles ne peuvent plus entrer. Il fallait entrer avant, il fallait être prêt à entrer au moment où il venait. Un peu, je veux dire, comme on fait cette expérience, vous devez aller à la gare et vous avez raté le train, quoi. Il y a un moment où vous ne pouvez plus monter dans le train. Alors vous le voyez partir, mais il fallait être là avant. Il y a un moment où il ne sera plus temps. Ça, c'est une chose dont nous devons avoir conscience. Dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, il y a un moment où il ne sera plus temps. Et donc, en ayant conscience de cela, il y a une conséquence, c'est le désir d'être prêt. Alors nous avons de la chance parce que nous avons une patrouille scout avec nous qui est présente ici et au cœur du scoutisme, vous avez cette devise du toujours prêt, Semper Parati, qui parfois est inscrit sur leurs bras, toujours prêt. Alors qu'est-ce que ça veut dire être toujours prêt, justement La parabole nous manifeste qu'il va falloir être personnellement prêt. Vous avez vu, il y a un moment, elle manque d'huile, et celle qui n'en avait pas prévu essaie de s'adresser aux autres pour leur dire « prêtez-nous un peu de votre huile ». Et les autres disent « c'est pas possible, parce que si on le fait, il n'y en aura plus suffisamment ni pour vous, ni pour nous ». Peut-être qu'il faut comprendre ce qu'elle faisait à l'époque. La pratique pour les mariages à l'époque de Jésus, c'était que, donc ça pouvait être en pleine nuit, il y a des jeunes filles qui vont aller à la rencontre de l'époux, qui va aller chercher l'épouse et qui va la ramener chez lui. Oui, sauf que il n'y a pas un éclairage public comme aujourd'hui, on est dans le noir, dans la nuit. Donc leur rôle, c'est d'avoir une lampe qui tienne le coup pour faire l'aller et le retour. C'est à la fois une illumination de fête et une illumination pour voir le chemin. Or, si vous divisez votre réserve de lumière en deux, au lieu de briller, je ne sais pas, une heure, les deux lampes vont brûler une demi-heure et vous ne faites pas le chemin en entier. Donc, ce n'est pas qu'elle serait méchante, qu'elle ne serait pas prêteuse, c'est que si on veut accomplir la mission, il faut avoir sa lampe complète. Pour prendre encore un exemple stupide, il y a des choses qu'on ne peut faire vraiment que soi-même. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un « Est-ce que tu peux aller aux toilettes à ma place ?» Je suis désolé pour l'exemple, mais au moins c'est assez clair. Non, il faut que c'est moi-même qui dois le faire. Et donc il y a une préparation qui relève de quelque chose que un autre ne peut pas faire à ma place. C'est moi qui vais le faire. Alors, troisième élément que cette parabole va nous manifester. Pour être prêt, cela ne nécessite pas un caractère surhumain. Qu'est-ce que je veux dire par là? On aurait pu imaginer, peut-être que pour être prêt, il faut vraiment avoir des qualités qui sont supérieures aux autres. Voilà, vous devez avoir une santé supérieure à celle des autres. Vous devez avoir une intelligence supérieure, une condition physique supérieure. Et si vous ne l'avez pas, ça ne doit pas être pour vous. Or, on voit dans la parabole que toutes ces jeunes filles sont fragiles. Elles vont s'endormir toutes parce que c'est long d'attendre. Donc, il n'y en a pas qui seraient surhumaines, elles sont toutes fragiles. Donc, le fait d'être prêt ne relève pas d'appartenir à une élite particulière ou d'appartenir à une surhumanité. Vous voyez, cette préparation, ça ne ressemble pas non plus comme quelqu'un qui préparait un produit frais. Je vous prépare un gâteau, le gâteau, rapidement, il va devenir pas frais, justement, il va se gâter. Ça ressemble plus à la préparation du sportif. Le sportif qui chaque jour s'entraîne, qui chaque jour entretient justement sa condition physique. Et du coup, quand vient le moment de la compétition, eh bien, en fait, il est prêt parce qu'il a entretenu sa condition physique, il l'a développée jour après jour. Il n'a pas à aller chercher, j'allais dire, cette réserve d'huile ailleurs. Quatrième élément, on pourrait se demander, mais la réserve d'huile, est-ce que ce n'est pas quelque chose de mystérieux, de compliqué? Il faudrait savoir, et il n'y en a que quelques-uns qui savent où on peut aller la trouver. Non, on ne nous dit pas que c'est une huile particulière, elle est toute simple cette huile. Il suffit d'aller la trouver chez les marchands, et les jeunes filles, même imprévoyantes, savent où sont les marchands, elles vont les trouver. Donc il n'y a pas quelque chose qu'il faudrait faire qui soit hors de notre portée. Alors qu'est-ce que c'est? À quoi faut-il s'entraîner jour après jour? Dans l'évangile selon saint Matthieu, si vous vous amusez, vous pouvez aller regarder, et vous allez trouver un autre endroit dans l'évangile où on va retrouver des formules qui y ressemblent. En fait, vous savez, les jeunes filles à la fin disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Et un autre moment, c'est au chapitre 7, à la fin du discours de Jésus sur la montagne, où il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur !» Est-ce que ce n'était pas en ton nom qu'on avait annoncé? Jésus dit « C'est pas en m'appelant Seigneur, Seigneur qu'on entrera dans le royaume, mais en faisant la volonté de mon Père. » Et puis on retrouve cette comparaison, cette opposition sage et fou. Jésus prend une autre parabole où il nous dit « Quelqu'un qui met en pratique mes paroles, qui entend ce que je dis et qui les met en pratique, est comme un homme sage qui a construit sa maison sur le roc. » Quelqu'un qui les entend et ne met pas en pratique est comme quelqu'un qui est fou et qui a construit sa maison sur le sable. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre ses paroles en pratique? C'est vivre justement comme Jésus nous l'apprend dans le discours sur la montagne. C'est apprendre à vivre comme Jésus vit, c'est apprendre à aimer comme Jésus aime, c'est apprendre à nous tourner vers le Père comme Jésus se tourne vers le Père. Et c'est aujourd'hui que cela se fait. Oui, connaître quelqu'un, c'est passer du temps avec lui. Et si je ne passe pas de temps avec lui dans ma prière, si je ne passe pas de temps avec lui dans mes actions, dans ma façon de travailler, eh bien, ce n'est pas étonnant qu'il nous dise « je ne vous connais pas parce que je ne vous ai jamais vu, en fait. Vous n'avez jamais pris de temps avec moi. » Il y a une différence dont on parle de connaître quelqu'un, ce n'est pas simplement savoir qu'il existe. Qu'il le connaisse et que j'ai pu échanger avec lui, j'ai passé du temps avec lui. Et cela peut ne pas avoir eu lieu dans ma vie. Alors, j'invite notre attention, j'allais dire, à dépasser deux obstacles. Deux obstacles, l'un qui vient de la paresse et l'autre qui vient de l'orgueil. L'obstacle qui vient de la paresse, c'est refuser de faire le point pour connaître ce qui doit être réformé dans notre vie. Et il y a des moments où on s'arrête. Autrefois, on nous apprenait parfois à faire, au terme de notre journée, un examen de conscience. Ce n'est pas pour se mettre une bonne note ou une mauvaise note, c'est pour voir est-ce que, par rapport à ce que Jésus fait, est-ce que j'ai vécu en conformité ou pas du tout. Et ça me permettait de découvrir là où c'était difficile, là où ça coinçait. Et pourquoi ? Parce que si ça coince là, je sais que c'est là où je dois demander la grâce de Dieu. Et donc je savais quelle était la grâce que je pouvais demander, que j'avais à demander. Et parfois je me dis, oh non, c'est fatigant d'essayer de réfléchir là-dessus. Dépassons cet obstacle de la paresse. Mais il y a un autre obstacle qui est celui de l'orgueil. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est celui de se dire, non, aujourd'hui je suis un trop occupé, je ne vais pas bien le faire. Alors donc peut-être demain, parce que je veux vraiment bien faire. Vous savez, c'est le souci de bien faire qui me fait reporter la chose, parce que je voudrais le faire parfaitement. Et là-dessus, il y a parfois justement une grande illusion de se dire, mais c'est par ma propre décision seulement que je vais réussir à faire les choses. Non, ce sera avec la grâce de Dieu. Ça ne peut être qu'avec la grâce de Dieu. Et donc, l'essentiel, c'est de commencer maintenant, de commencer aujourd'hui. De commencer aujourd'hui. Seigneur, je te demande ta grâce. Ce point-là, je l'ai identifié. Peut-être que je vais le faire imparfaitement, mais avec ta grâce, je sais que ça va avancer. Et si je m'ouvre déjà à ta grâce, alors le flot de la grâce viendra dans ma vie. C'est ainsi que nous serons prêts, parce que nous nous ouvrons, parce que nous prenons conscience de regarder que c'est maintenant que nous pouvons être prêts, que c'est maintenant que le Seigneur va nous aider à entrer dans ce toujours prêt qui nous permettra de l'accueillir paisiblement. À la fin de la messe, la prière des frères sera proposée, c'est-à-dire qu'on confie quelques intentions de notre vie à la prière de quelques-uns de nos frères qui vont se tourner vers le Seigneur pour nous demander, pour demander sa force, pour demander son aide, pour demander sa consolation. Ben peut-être que vous avez repéré quelque chose qui a besoin de la grâce de Dieu. Profitez de ce temps de la prière des frères. C'est aujourd'hui qu'il vous est donné de faire votre réserve d'huile, de la constituer, pour que lorsque le Seigneur vient, vous pourrez aller à sa rencontre joyeusement et entrer dans son royaume. Seigneur, nous voulons aviver notre conscience de ta venue dans la gloire. C'est aujourd'hui que nous constituons notre réserve d'huile. C'est aujourd'hui que nous apprenons à vivre comme toi, auprès de toi. Viens, Seigneur Jésus. Amen.